help me find the way. Bring me back to you.
Bring me back to you.
Chers amis, soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis Abanga Onana. Rebâtissons l'autel de Dieu dans nos vies. Tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. Sans plus attendre, ouvrons nos Bibles dans 1 Roi, chapitre 18, et lisons à partir du verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Un autel est un lieu où les sacrifices sont offerts, un lieu de rencontre entre l'humanité et le spirituel. Tout le monde sait que le spirituel contrôle le physique et le naturel. Il y a de la puissance derrière chaque autel. Mais la seule chose qui peut activer la puissance d'un autel est le sacrifice que nous y faisons. Et aussi, à qui nous offrons ce sacrifice? Chaque autel doit recevoir un sacrifice et chaque autel attend un sacrifice. C'est pour cela que tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie sont réduits à entrer en contact avec les forces des ténèbres pour telle ou telle chose et à leur offrir des sacrifices sur des autels d'affliction. À cet effet, ils font des incantations aux dieux de leurs ancêtres, adorent leurs reliques, entrent en communion avec les esprits des morts, se prosternent devant les astres, le soleil, la lune et les étoiles et observent plusieurs autres rites antichrétiens. Ils se lavent avec des savons spéciaux, se oignent avec des lotions et des potions spéciales, font divers sacrifices, même humains, tout ceci dans le but de demander l'aide et la bénédiction des esprits. Il y a les autels d'affliction marins, les autels d'affliction terrestre et les autels d'affliction astro. En ce qui concerne les autels d'affliction marins, Pharaon d'Égypte, par exemple, allait sacrifier au bord du fleuve où il entrait en contact avec des divinités, comme le font les peuples côtiers. Exode 7, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Ensuite, nous avons les autels d'affliction astro. Lévitique 26, au verset 30, nous dit, « Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. » Et Deutéronome 4, au verset 19, parlant toujours des autels d'affliction astro, nous lisons, « Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. » Enfin, nous avons les autels d'affliction terrestre. Dans Juges 6, au verset 25, nous lisons, « Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. » 2 Rois, chapitre 18, du verset 1 au verset 18, nous parle toujours des autels d'affliction terrestre. Mais les vrais nés de nouveau en Jésus-Christ savent que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Le plus souvent, nous entendons des personnes qui vont chez certains prophètes et qui reviennent disant qu'ils ont reçu des miracles. Mais ces personnes ne se posent jamais la question de savoir à quel coût spirituel ont-elles reçu ces soi-disant miracles. Et avant peu de temps, ces miracles reçus à la volée et de sources trompeuses commencent à être suivis de chagrins terribles et impitoyables. Chers amis qui écoutez ce message, si vous êtes nés de nouveau en Jésus-Christ et que vous demeurez consacrés au Seigneur Jésus-Christ seul, en son nom, que ce genre de situation ne vous arrive jamais. Amen. Comme nous l'avons dit au début, les autels sont des lieux où des êtres humains entrent en contact soit avec le seul vrai Dieu, soit avec Satan et ses démons. Il y a donc dans tout cela nécessité de détruire tous les autels où nous sacrifions à Satan dans nos vies. Nous devons les renverser et ne bâtir que le seul autel qui vaille, celui où nous offrons nos sacrifices qu'au Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, au Seigneur Jésus-Christ seul. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Vous et moi, à travers l'animisme, le cercle ésotérique et la religion sans Christ, nous avons renversé l'autel de l'Éternel dans nos vies. Et ce sont les autels de Satan que nous avons érigés à la place à cause de notre ignorance. Verset 31. Élie prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquelles l'Éternel avait dit « Israël sera ton nom ». Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Gédéon fit la même chose. Dans Juges 6, au verset 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. La confusion ambiante et impitoyable qui s'abat dans plusieurs milieux religieux aujourd'hui est que la majorité des chrétiens, appelons-le comme ça là, veulent offrir à Dieu et à Baal au même moment. Les dimanches, ils vont dans les églises en parlant d'un seul vrai Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais de lundi à samedi, ils vont adorer les dieux de Baal. Ils vont adorer d'autres dieux, ces multiples dieux-là qui ne sont que des démons, à travers les différents autels de Baal qu'ils ont dans leur maison, dans leur famille, dans leur village, dans leur région et dans leur nation. Mais l'autel dont nous parlerons dans ce message est le nouveau que nous devons, comme Élie et Gédéon, bâtir au Dieu créateur, celui de la Bible, rien que sur le fondement des 12 fils de Jacob et des 12 apôtres. Le psaume 119 au verset 160 nous dit « Le fondement de la parole de Dieu est la vérité et toutes les lois de la justice divine sont éternelles. » Ésaïe 28 verset 16 « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Voilà la fondation de l'autel que nous devons bâtir au seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et enfin, 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Dieu s'attend à ce que chacun de ses enfants lui bâtisse un autel, un endroit où les deux se rencontreront. Satan attend aussi la même chose de ses enfants. Dans Exode 8, au verset 25, nous disons ceci. Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit, « Il n'est point convenable de faire ainsi. » Car nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Il est donc impossible que l'autel de Dieu soit à côté de l'autel de Baal. Ce n'est pas possible. Parce que nos sacrifices que nous rendons à notre Dieu sont des abominations aux sacrifices que les satanistes, les ésotériques, les animistes rendent aussi à leur multiple Dieu. Et Moïse continua. Et si nous offrons sous leurs yeux les sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Ne fermeront-ils pas nos églises nouvelles et non conventionnelles? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. Vous voyez l'ambiguïté de la religion? Vous ne vous éloignerez pas. Il veut avoir la main mise sur les enfants du royaume que Jésus-Christ est venu libérer. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ de tout le cœur et qui ont renoncé à eux-mêmes pour ne suivre que lui seul tous les jours de leur vie, sont déjà libérés. Mais le monde, l'animisme et leurs multiples religions et pensées philosophiques ne l'entendent pas de cette oreille. La construction d'un hôtel est une responsabilité personnelle. En ce qui concerne l'hôtel à bâtir au seul Dieu créateur, celui d'Israël, nous avons impérativement 2 choses à faire. La première, nous devons d'abord, comme Élie et Gédéon, détruire tous les hôtels sataniques, tous les hôtels antichrist, tous les hôtels charnels, tous les hôtels mondains et ésotériques qui existent dans nos vies. Tous les hôtels des traditions païennes de nos tribus qui ne connaissent pas le seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, nous bâtissons un nouveau haut Dieu d'Israël. À cet effet, détruisons d'abord les hôtels bâtis aux dieux de nos ancêtres. À Bacchus, le dieu des ivrognes et des alcooliques. À Mammon, le dieu des biens matériels et de l'argent. À Baal, à Vénus, à Dagon, le dieu des Philistins. Au dieu des cercles ésotériques et mystiques. Au dieu du sexe. Au dieu de ce siècle. Au dieu ventre. Au dieu des rivières, des montagnes, des grottes, des baobabs. Du culte aux morts et à leurs reliques. Ô Dieu de la religion et des gloires religieuses de ce monde, ô Dieu de la colère, de l'amertume, de l'hypocrisie, de l'insoumission, de la désobéissance, c'est-à-dire ô Dieu de la sorcellerie, qui ne peut être que le serpent ancien, le dragon, Satan, le diable. C'est ce que Gédéon avait fait. Gédéon, Juges chapitre 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jaune taureau de ton père, et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Verset 26, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Les anciens autels charnels, mondains et sataniques doivent d'abord disparaître afin que ce bâti à Dieu soit et demeure opérationnel. Parce que personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Matthieu 9, verset 16. Si nous voulons bâtir un hôtel à Dieu, nous devons d'abord détruire ceux du monde, de la chair et du diable que nous servons. Parce que ceux-là sont incompatibles et ne peuvent jamais cohabiter avec l'hôtel de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Toutes les idoles que nous adorions jusqu'à présent, soit directement, soit indirectement, en envoyant seulement nos finances, doivent être détruites afin que l'autel au seul vrai Dieu soit rebâti. Une fois de plus, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dieu veut faire des choses nouvelles dans les vies de ses enfants et cela n'est possible que si nous rejetons tout autre Dieu pour nous servir et n'adorer que lui seul. N'oublions jamais qu'il est le Dieu jaloux de sa gloire et qui ne veut nous partager avec personne d'autre. Quand nous détruisons tous les autels de Satan et nous rebâtissons ceux de Dieu, nous pouvons nous attendre aux bénédictions suivantes. D'abord, 1. Nous sommes délivrés de nos ennemis. C'est ce qui était arrivé dans Juges 6 à partir du verset 28 à Gédéon. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé par Gédéon. Verset 29. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure. car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin arrive. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Quand Gédéon renversa l'autel de Baal dans la maison de son père, Dieu le fit triompher de tous les adorateurs de Baal. Ainsi parle l'Éternel dans Proverbe 16 au verset 7. Quand les voix d'un homme ou d'une femme plaisent à l'Éternel, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Cher ami qui écoute ce message, si tu résistes à Satan et que tu te soumets à Dieu de tout ton cœur, les défaites d'hier ne seront plus ton partage et elles seront toutes remplacées par des victoires sans combat. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ensuite, après avoir renversé les autels de Baal et rebâti l'autel de Dieu, nous serons protégés par Dieu qui combattra désormais tous nos combats. Ainsi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, verset 17. Les adorateurs de Baal voulaient tuer Gédéon, mais Gédéon vécut. Tous les agents de Satan qui œuvrent ou qui attendent la mort d'un vrai enfant de Dieu auront pour leur compte, parce que c'est l'enfant de Dieu qui assistera à leur funérailles s'ils ne se repentent pas. Après donc avoir détruit les autels de Baal et rebâti l'autel de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire ensuite? 2. Nous devons rétablir d'abord l'autel de Dieu qui existait dans nos vies, mais qui avait été détruit à cause de notre rétrograde ou de notre ignorance. Rétablissons-le donc après l'avoir rebâti. Une chose est de bâtir un autel à Dieu, mais il en est une autre de le rétablir dans nos vies, c'est-à-dire de le rendre opérationnel, c'est-à-dire de commencer à y offrir vraiment des sacrifices à Dieu. 1 Roi 18, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Après l'avoir rebâti, maintenant il le rétablit. Il va donc maintenant y sacrifier. Avant de marcher avec Jésus, avant de faire des œuvres qu'il a faites, avant de marcher sur les serpents et sur les scorpions, avant de triompher du monde des ténèbres, avant de commencer à glorifier Dieu dans nos corps et dans nos esprits qui lui appartiennent, nous devons d'abord nous repentir, renoncer à nous-mêmes pour ne suivre que le Seigneur Jésus-Christ seul. Parce que nous avons refroidi dans notre zèle pour Dieu, l'autel de Dieu dans nos vies avait été renversé. Maintenant que nous sommes revenus à notre premier amour, nous devons réparer l'autel de Dieu qui était renversé dans nos vies. Cela n'est possible que si notre obéissance à Dieu est de nouveau totale. Deutéronome 28, verset 1 nous dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Gloire au Seigneur Jésus-Christ, en qui cela est possible dans ma vie, grâce à son sacrifice sanglant sur la croix et surtout à sa résurrection des morts. Merci Seigneur Jésus. Toi seul es mon sauveur, toi seul es ma lumière, toi seul es mon secours, toi seul es ma victoire, ma sanctification, ma sagesse et ma vengeance. Dieu est une obéissance incomplète. Mieux vaudrait être un idolâtre à 100% que d'être ce genre de croyant qui a un pied dedans et un autre dehors. La raison pour laquelle Dieu parle ainsi est que quand tout le monde sait que nous ne sommes pas à lui, si quelque chose nous arrive, personne ne blâmera Dieu pour cela. Mais quand les gens croient que nous appartenons à Dieu, alors que nous jouons dans les deux camps, si quelque chose nous arrive, pendant que Dieu ne nous reconnaît pas comme les siens, les gens blâmeront Dieu et ils nous demanderont « Où est votre Dieu dont nous vous entendons toujours parler ?» Plusieurs parmi nous allons régulièrement à l'église, nous chantons, dansons, crions, donnons des offrandes, lisons et prêchons la parole. Nous nous saluons et nous nous bénissons régulièrement. Mais quand nous quittons l'église, nous devenons ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire des Philistins. Il y a des hommes et des femmes qui sont des agneaux dans leur temple religieux. Mais une fois hors du temple, ils deviennent des bourreaux, des scandales pour leurs épouses et enfants en ce qui concerne les hommes, et pour leurs époux et enfants en ce qui concerne les femmes. Certains se disent des nés de nouveau, des ministres de Dieu, alors qu'ils sont membres des cercles ésotériques et de plusieurs autres sociétés secrètes, gardiens des traditions occultes de leur tribu, des charnels et des contrôlés par leurs cinq sens. Aïe, 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 un aïe par sens. Plusieurs parmi nous savons comment fervent nous étions dans notre consécration à Dieu, dans notre vie de sanctification, de brisement, de désintéressement dans la prière. Comment appliquer nous étions dans l'étude de la parole de Dieu. Nous savons ce que nous offrions à Dieu comme sacrifice. Mais après, les choses sont devenues négativement différentes, alors que Dieu a pour nous des plans et des projets de paix, de bonheur et de prospérité. Quand nous relevons et rebâtissons l'autel de Dieu comme Élie et Gédéon l'avaient fait, nous pouvons nous attendre à ce qui suit. D'abord, 1. Des exaucements instantanés de nos prières. Psaume 50, verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Quand nous avons rebâti son autel, quand nous obéissons à tous ses commandements, il dit alors que si nous l'invoquons au jour de la détresse, il nous exaucera. Il nous exaucera par le feu du ciel, comme dans le cas du prophète Élie. Ensuite, nos offrandes sont acceptées par Dieu, comme dans le cas de Abel que Dieu avait agréé. Mais comme l'autel de sacrifice de Caïn ne plaisait pas à Dieu, Dieu a aussi rejeté Caïn et son offrande. Nous trouvons ceci dans Genèse 4, du verset 3 au verset 5. Caïn et Abel avaient fait chacun une offrande à Dieu, mais Dieu accepta un et son offrande, et il rejeta l'autre et son offrande. Chers amis qui écoutez ce message, si vous détruisez tous les autels de Satan dans vos vies, et ne rebâtissez et ne rétablissez que celui de Dieu, au nom de celui qui dit et la chose arrive, l'Éternel ne rejettera jamais ni vous, ni vos offrandes. Amen. Ensuite, notre potentiel est activé par Dieu. Quand le feu de Dieu tomba sur le mont Carmel, en exaucement de la prière d'Élie, son offrande fut acceptée par Dieu. Ce feu venu du ciel consuma le bois qui devint le feu incombustible. Le bois allumé par le feu devint une bénédiction pour cuire nos aliments, une bénédiction pour gérer nos offrandes, une bénédiction pour réchauffer tous ceux qui avaient refroidi. Élie lui-même devint une bénédiction pour sa génération. 4. Les difficultés, les tribulations et les épreuves sont toujours vaincues dans nos vies quand nous détruisons tous les autels de Baal et ne rebâtissons que l'autel au seul vrai Dieu pour lui offrir des sacrifices. Quand le feu tomba sur le mont Carmel, il ne consuma pas seulement l'holocauste, mais aussi le bois, les pierres, l'eau et la terre. C'est ce que nous lisons, 1 Roi 18, verset 38. Les pierres, symbole des difficultés, symbole des endurcissements de nos cœurs, furent consumées. C'était notre victoire sur les épreuves, sur les cœurs endurcis et non circoncis, sur le manque de régénération, sur les fausses nouvelles naissances. Dans Ézéchiel 36, au verset 26, Dieu nous dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ensuite, l'eau, symbole de l'inondation et des noyades, symbole de la puissance des autels marins, des esprits des eaux et des sacrifices occultes, fut absorbée par le feu du ciel. Ésaïe 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. » Psaume 18, verset 17, « Il étendit sa main d'en haut et me saisit, il me retira des grandes eaux. » Psaume 32, verset 6, « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Psaume 124, verset 1, « Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. » Sans l'Éternel qui nous protégea quand les hommes s'élevèrent contre nous. Ils nous auraient engloutis tout vivants quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Ensuite, le feu consomma la poussière qui était sur la terre. Nous savons tous que la poussière est le symbole de la chair et de ses désirs qui sont toujours contraires à ceux de l'esprit, de la grâce divine. Pour vaincre la chair, pour la crucifier, pour vaincre la chair avec ses passions, ses convoitises et ses désirs qui sont toujours contraires à l'esprit de Dieu, le feu de Dieu doit être relâché dans nos vies. Romains 8, à partir du verset 3. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Galates 6, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit Saint et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Nous devons donc crucifier notre chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, verset 24. Et sans le feu du Saint-Esprit en nous, nous sommes incapables de crucifier cette chair. Parce que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'Esprit Saint moissonnera de l'Esprit Saint la vie éternelle. Galates 6, verset 8. Quand nous rétablissons l'autel de Dieu dans nos vies, notre témoignage devient vrai et puissant. Et notre lumière brille devant tous. Et la multitude se tourne vers le Seigneur et commence aussi à glorifier Dieu. C'est ce qui se passa dans 1 Roi 18 à partir du verset 38 au verset 39. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui est Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac seul qui est Dieu. Quand nous rebâtissons l'autel de Dieu renversé dans nos vies, gagner les âmes au Seigneur devient facile pour nous. La raison pour laquelle plusieurs membres de nos familles, plusieurs de nos amis, collègues, voisins et autres partenaires n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ est parce qu'ils sont confus par notre vie chrétienne sans lumière, sans sanctification et sans fruit digne de la repentance. Alors, ils commencent à errer et à se demander, devons-nous devenir comme lui ou comme elle? Où devons-nous demeurer comme nous sommes? Et la plupart du temps, ils demeurent comme ils sont. Ou alors, ils se joignent une fois pour toutes au monde avec ses convoitises et son orgueil. C'est après qu'Élie eut rétabli l'autel de Dieu et offert son sacrifice qu'il entendit l'annonce de la pluie et de la fin de la sécheresse. 1 Roi 18, versets 41 à 45. Cher ami qui écoute ce message, si tu rebâtis l'autel de Dieu dans ta vie, et que tu lui offres des offrandes qu'il agrée, tous les agents du monde des ténèbres non repentants dans ta vie seront anéantis. Et toutes les forces du mal qui causaient la régression, la répression, la stagnation et la destruction dans ta vie seront dispersées et paralysées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'autel que nous rebâtissons à Dieu doit être multidimensionnel. D'abord, il doit être un autel de notre foi au seul vrai Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cessons donc de douter, parce que 4 fois dans la Bible, Dieu nous dit que le juste vivra par la foi. Comment pouvons-nous nous appeler chrétiens si nous ne croyons et ne demeurons pas dans la parole de Dieu pour la vivre? Et cela devient un suicide. Nombre 23, verset 19 dit, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Plusieurs qui n'ont pas la foi doutent de cette parole que je viens de lire. Et le psaume 33, verset 9 dit, « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Hébreux 10, 23 dit, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Alléluia! Gloire au Seigneur Jésus-Christ! Si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ et que nous rebâtissons pour toujours son autel renversé dans notre vie, alors toutes les promesses de Dieu pour nous s'accompliront. Nous aurons des tribulations dans le monde. Mais prenons courage, car notre Seigneur a vaincu le monde. Les promesses de Dieu dans nos vies s'accomplissent toujours, même s'il nous faut traverser par la fournaise ardente comme Abednego, Shadrach et Meshach, même s'il nous faut traverser à travers la fosse au lion comme Daniel. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 15, verset 57. Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Voici les versets bibliques qui édifient notre foi, qui rendent notre foi forte et grande. L'apôtre Paul exhortait son jeune suiveur Timothée à bâtir et à maintenir son autel de la foi en Dieu, quels que soient les temps et les circonstances, surtout en ces temps de la fin où même le diable et son royaume ont cessé d'être des séducteurs diplomatiques. 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 au verset 9. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Mais cela ne doit pas nous faire renoncer à notre foi. Il continue. Donc les gens seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Oui, mon bien-aimé, maintiens ton autel de la foi en Dieu, afin que tu ne suives jamais la foule pour faire le mal, et que tu ne déposes jamais dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Exode 23, verset 2. Je suis à Banga, Onana. Rebâtissons l'autel de Dieu dans nos vies. Tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. Deuxième dimension de l'autel que nous avons rebâti à Dieu. Il doit être un autel de notre louange à Dieu. Psaume 65, verset 1. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Quand nous avons rétabli l'autel de la louange à Dieu dans nos vies, nous devions chacun être capable de dire à Dieu, viens et demeure dans ma vie, dans ma maison, dans mon ministère, dans mes entreprises, et siège-y pour toujours. Psaume 22, verset 3. Pourtant, tu es saint et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Mais malheureusement, quand Dieu vient dans nos vies, tout ce qu'il trouve est la religion. L'hypocrisie, les murmures, les lamentations, les querelles et les disputes, les cercles ésotériques, l'amertume, la colère et la haine, le manque de pardon, le carriérisme religieux, la perfidie et toutes les autres œuvres de la chair. Et plus encore, quand Dieu vient dans nos vies, il se retrouve au banc des accusés. Qu'est-ce qu'il entend? Seigneur, pourquoi as-tu fait ou permis ceci ou cela? Où étais-tu quand ceci ou cela se passait? C'est pour cela qu'il ne siège pas dans nos vies, dans nos foyers, dans nos assemblées, parce que nos louanges sont charnelles, mondaines et démoniaques. Quand Dieu ne voit et ne rencontre que sa louange permanente dans nos cœurs et dans nos vies, il vient et il siège en nous et au milieu de nous pour toujours. Nous devons louer Dieu quand les choses vont bien et surtout quand les choses ne vont pas bien. C'est ce que nous appelons les sacrifices de louange. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Dans 2 Corinthiens 20, pendant que le roi Josaphat et le peuple de Juda étaient attaqués par 3 nations ennemies, Dieu leur dit que le combat n'était pas pour eux, mais pour lui Dieu. Si et seulement le roi Josaphat et le peuple de Juda lui offraient un sacrifice de louange sur l'autel. Et c'est ce qui se passa. Nous vous conseillons d'aller lire 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 21 au verset 23. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous offrons à Dieu un sacrifice de louange, le fruit des lèvres qui confessent son nom, les ennemis de notre communion avec le Père et avec son Fils, les ennemis de nos foyers, les ennemis de nos enfants, les ennemis de nos finances, les ennemis de nos sacrifices au seul vrai Dieu, les ennemis de nos affaires, les ennemis de la réalisation des projets de Dieu dans nos vies, les ennemis de nos nations respectives s'auto-exposent, s'auto-trahissent, s'auto-neutralisent et s'auto-détruisent. Alléluia. 3. L'autel que nous rebâtissons à Dieu doit être un autel d'action de grâce au seul vrai Dieu. Apprenons sans cesse à dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous hier, aujourd'hui et demain. Rendons-lui grâce même pour nos difficultés, pour les tribulations et les épreuves dans nos vies. Rendons-lui grâce pour nos faiblesses. Oui, dans 2 Corinthiens 12, au verset 8, Paul dit « 3 fois j'ai prié l'Éternel d'éloigner les chardes que j'avais sur moi. » Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Et 1 Thessaloniciens 5, au verset 18, nous dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Cher ami qui écoute, rends-lui grâce parce que tu n'es pas mort dans tes péchés, parce que tu n'es pas en enfer, parce que tu as encore du temps pour te repentir. Rends-lui grâce parce que tu n'es pas sourd, aveugle ou muet. Rends-lui grâce parce que tu sais enfin que le Seigneur Jésus-Christ seul est le chemin, la vérité et la vie, le sauveur du monde entier. Tu peux encore te repentir. Rends-lui grâce. Ceux qui sont partis hier sans connaître Jésus, il est trop tard pour eux. Rends grâce à Dieu parce que tu peux encore donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ et faire de lui le seul sauveur et le seul Seigneur de ta vie. C'est le but de ce message. Le roi David savait rendre grâce à Dieu. Dans le psaume 103, au verset 1, David dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui a inauguré et consacré pour toujours mon âge d'or pour moi et pour toute ma maison. Et cela est éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Si nous n'avons pas les biens du monde, mais que nous sommes au moins sûrs que si nous quittons ce monde aujourd'hui, nous irons directement au Père. Cela n'est-il pas suffisant pour nous faire rendre grâce à Dieu tous les jours et pour toujours? Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Luc 9 au verset 25, Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Que chacun d'entre nous réponde à cette question. Ensuite, 4. Le nouvel hôtel que nous venons de bâtir après avoir détruit les hôtels de Baal doit être un hôtel d'adoration au seul vrai Dieu. Il s'agit de l'endroit où nous pouvons sans cesse dire à Dieu comment il est tout puissant, saint, 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 grand, le plus élevé, le commencement et la fin, le grand je suis, le saint d'Israël, le saint d'Abanga Onana, le saint du corps de Christ, le saint de tous les sages, le roi de tous les rois, celui qui était, qui est et qui vient, le rocher des siècles, l'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats, l'éternel des armées, le lion de la tribu de Juda. Le psaume 18, à partir du verset 1, écoutons là aussi comment David adore Dieu après l'avoir loué dans le psaume 103. À partir du verset 2, je t'aime, ô éternel, ma force, éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu et mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia! Chers amis, adorons sans cesse notre Dieu en esprit et en vérité, et nous ne le regretterons jamais. 5. L'autel que nous bâtissons à notre Dieu doit être un autel de prière, de requêtes ferventes des justes au seul vrai Dieu. Nous devons tous bâtir un autel de prière à celui qui nous exhorte à prier sans cesse, à ne pas nous relâcher dans la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, Luc chapitre 18 verset 1. Et Éphésiens 6, à partir du verset 18, nous dit « Faites en tout temps, par l'Esprit Saint, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, c'est pour qu'il parle, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » L'autel de Dieu dans nos vies doit être un autel de prière fervente des justes. Parce que nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Dans Jérémie 33, au verset 3, il dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et dans Jean 14, 14, il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Il s'adresse à tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui ont renoncé à eux-mêmes, qui portent leur croix tous les jours de leur vie pour le suivre éternellement. 6. L'autel que nous bâtissons au seul vrai Dieu doit être un autel pour offrir des sacrifices au seul vrai Dieu. Un autel n'est pas celui des sacrifices tant qu'un sacrifice n'y est pas offert à l'Éternel. Il y a de la puissance derrière chaque autel, mais la seule chose qui peut activer la puissance d'un autel est le sacrifice que nous y faisons. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient le plus souvent sous forme d'holocauste. À cet effet, le sang devait couler. Dans Genèse 22, versets 1 à 13, Dieu avait demandé à Abraham de bâtir un autel et de lui offrir son fils Isaac qu'il aimait tant. Nous savons que Dieu ne mange pas les enfants. Mais il ne faisait qu'éprouver Abraham pour voir si ce dernier l'aimait plus qu'il aimait son fils Isaac. Genèse 22, versets 1 à 2. Et dans 2 Chroniques 1, versets 6 à 12, la Bible nous dit que Salomon avait offert 1000 holocaustes à l'Éternel sur l'autel qui était devant la tente d'assignation. Il est vrai que Salomon était financièrement et matériellement riche et que les sacrifices à offrir ne lui faisait pas défaut. Mais même le simple fait qu'un roi, si élevé par Dieu comme lui, se tenait là toute la journée pendant que les sacrificateurs immolaient et consumaient les animaux les uns après les autres, était même déjà un grand sacrifice offert à l'Éternel. Et puis, au lieu de financer l'homosexualité, les guerres dans le monde, les cercles ésotériques et le royaume du diable à coups de milliards de dollars et d'euros, ne pouvons-nous pas, comme Salomon, utiliser ces moyens pour offrir des sacrifices à l'Éternel en finançant la grande commission? Et dans le monde séculier où nous sommes de nos jours, ce sont les personnes les plus nantis qui sont aussi les plus chiches quand il s'agit de donner à Dieu. Et ces mêmes gens très justes dans le monde sont les plus libéraux quand il faut financer le monde des ténèbres, les cercles ésotériques, la religion et le paganisme. Les riches trouvent très difficile d'offrir à Dieu, ne voyant pas pourquoi ils devraient le faire alors qu'ils sont déjà grands, oubliant que Dieu peut rendre un grand plus grand ou plus petit. 1 Samuel 2, verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu n'accepte plus que nous offrons des sacrifices sanglants à son autel. Parce que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, notre Pâque s'est déjà livré à l'autel pour un sacrifice sanglant suprême, parfait et éternel une fois pour toutes. C'est ce que l'eunuque éthiopien ne comprenait pas dans Acte 8 et que l'évangéliste Philippe lui avait expliqué avant de le conduire au salut et au baptême d'eau. C'était Isaïe 53 à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Gloire au Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde. Depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu attend désormais que nous lui offrions à l'autel des victimes spirituelles en sacrifice. 1 Pierre 2, à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Quand nous apprenons à sacrifier à Dieu, soyons aussi prêts pour gérer les jaloux. Parce que tous ceux qui ne connaissent pas notre sacrifice vont nous envier. En matière de sacrifice, nous en avons deux spéciaux. Nous avons par exemple le sacrifice de justice. Dans le psaume 4, verset 6, offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Nous le pratiquons en accomplissant Romains chapitre 12, au verset 1 qui dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si nous marchons selon l'esprit et non selon la chair, alors automatiquement, nous produisons ou cultivons le fruit de l'Esprit Saint. Et cela signifie que nous offrons des sacrifices de justice et de vie qui plaisent à Dieu. Deuxième sacrifice spécial, le sacrifice de l'injustice. Si ce sont les œuvres de la chair qui nous contrôlent, alors notre sacrifice est celui de l'injustice et de la mort. Parce que la Bible dit que tous ceux qui vivent ou marchent selon la chair ne saurait plaire à Dieu. C'est le cas de Caïn dans la Bible. À cet effet, nous vous conseillons de lire Galates 5, du verset 16 au verset 21. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit Saint, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dans les œuvres de la chair ci-dessus, nous trouvons l'idolâtrie. C'est pour cela que Colossiens 3, à partir du verset 5, nous dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ceci afin que nous puissions plutôt faire des sacrifices de justice à Dieu et non de continuer à faire des sacrifices d'injustice. Faisons donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les pays dont les parlements et les sénats refusent encore d'être intimidés par le gouvernement mondial et qui refusent de légaliser l'homosexualité et les mariages entre les personnes de même sexe. Le gouvernement mondial, qui se fait appeler de nos jours la communauté internationale, nous parle des droits de l'homme, alors que beaucoup de peuples n'ont pas de l'eau potable à boire, ni de l'électricité, et ne peuvent pas manger tous les jours. Parce que cette même communauté internationale pille toutes les richesses de ces peuples, les rendant plus pauvres que des esclaves. Et en ce qui concerne le pillage des richesses de ces peuples, les droits de l'homme n'existent pas. Et ce n'est pas l'acceptation du mariage entre les hommes de même sexe qu'ils veulent promouvoir les droits de l'homme. Quelle bêtise! Nous ne le dirons jamais assez. L'argent peut nous offrir un bon lit pour dormir, mais il ne peut jamais nous donner un sommeil doux. L'argent peut nous offrir la voiture la plus à la mode et de dernier cri, mais l'argent ne peut pas nous garantir un voyage sûr et plein d'assurance. L'argent peut mettre la nourriture sur notre table, mais il ne peut pas nous donner l'appétit, ni nous assurer une bonne digestion, ni nous assurer que nous serons présents à table au prochain repas. L'argent peut nous offrir les meilleurs docteurs dans le monde, mais il ne peut pas nous donner une santé parfaite. L'argent peut nous faire avoir l'homme ou la femme de nos désirs et un mariage grandiose et même renommé dans le monde entier. Mais il ne peut pas nous assurer la fidélité conjugale, le bonheur conjugal, la paix conjugale, l'amitié et l'intimité conjugale et l'immunité contre les crimes passionnels et les divorces. Aïe, aïe, aïe. Il y a plusieurs choses indispensables et vitales que l'argent ne peut pas nous donner. Vanité de vanité et poursuite du vent. Ôtons nos yeux de l'argent et mettons-les sur le Seigneur Jésus-Christ seul. 7. L'autel que nous bâtissons à Dieu doit être un autel de dédicace et de consécration au seul vrai Dieu. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Plusieurs parmi nous sont prêts à sacrifier leurs biens financiers et matériels à Dieu, et même leur temps, tant que tout cela ne touche pas à leur zone de confort. Mes chers amis, tant que nous ne nous offrons pas tout entier en sacrifice vivant à l'Éternel, alors notre autel n'est même pas encore bâti ou rétabli. Voici le témoignage d'un pasteur pendant que les chrétiens tournaient le béton et construisaient un temple. À ce même moment, le chef de ce village vint en tenue d'apparat pour superviser les travaux, parce qu'il était aussi en même temps un membre de notre congrégation et le plus grand donateur. Et soudainement, quelque chose d'étrange se passa. Ce chef supérieur ôta sa tenue d'apparat et demanda un coussin et une cuvette pour porter aussi le béton. Et tous les pasteurs, tous les croyants en place, de même que les sympathisants, lui dirent: non, ô chef, tu as déjà donné l'argent et le ciment. Laisse la manutention à nous, les petits-enfants. Et le chef leur répondit, imperturbable: je viens d'entendre clairement Dieu me dire, si tu ne te joins pas à ces gens dans ce travail qu'ils font, toutes tes grandes offrandes financières et matérielles ne valent rien. Il avait entendu Dieu lui parler et il s'est humilié et a obéi. Et aucun pasteur n'était assez grand pour lui demander de faire ce qu'il était en train de faire. Rien que Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'était livré en sacrifice, lui-même, sur l'autel de Dieu. Chers amis, les mains qui ne peuvent pas faire le travail manuel pour Dieu ne peuvent pas guérir les malades. Les mains qui ne peuvent pas balayer la maison de Dieu, ni nettoyer les toilettes et vider les poubelles de façon désintéressée, sans ressentiment, sans murmure, les mains qui ne peuvent pas être un sacrifice à l'autel de Dieu, ces mêmes mains ne peuvent pas opérer des miracles ni prospérer à tous égards. Si vous n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ et fait de lui le seul sauveur et Seigneur de votre vie, vous êtes encore totalement étranger à tout ce que nous avons déjà dit dans ce message. Et vous êtes incapable de bâtir ou de rebâtir l'autel de Dieu dans votre vie. Parce que ce sont les autels à Satan qui y sont encore érigés. Mais vous pouvez faire demi-tour et commencer maintenant avec Dieu. Il n'est jamais trop tard pour tous ceux qui peuvent encore entendre la parole de Dieu comme vous l'entendez en ce moment à travers ce message. Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce qui dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. S'il vous plaît, acceptez l'appel au salut que je vous lance et l'agneau de Dieu ôtera tous vos péchés. Il sauvera votre âme de la perdition éternelle et les choses commenceront à changer dans vos vies si vous êtes sincère, consacré et déterminé. Si vous choisissez librement de ne jamais plus servir Satan et son système, mais de ne servir désormais que le Seigneur Jésus-Christ seul tous les jours de votre vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Il n'a pas donné une religion, il a donné Jésus. Au nom de Cana, Marie avait dit aux invités, faites tout ce qu'il vous dira. Et si nous sommes prêts dès maintenant à faire tout ce qu'il nous dira, il deviendra notre sauveur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Si vos péchés sont rouges, je les rendrai blancs comme la neige. Venez à moi, je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Venez à moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Venez à moi, parce que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle avec moi, et il s'asseoira avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur le trône. Le voulez-vous? Quel que soit dans l'endroit où vous êtes, baissez votre tête et priez avec moi. Dites simplement, Dieu Tout-Puissant, je m'offre totalement esprit, âme et corps à toi en ce moment. Je crois au sacrifice sanglant de ton Fils Jésus-Christ sur la croix. Je crois de tout mon cœur à sa résurrection des morts. Et de tout mon cœur, je fais de lui désormais mon seul sauveur et mon seul Seigneur. Je m'engage désormais à renverser et à détruire tous les autels charnels, mondains et sataniques dans ma vie. Le seul autel que je bâtis désormais est l'autel à mon seul Dieu, à mon Père éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Merci parce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus-Christ, amen. Chers amis, nous vous adressons nos félicitations si vous avez fait cette prière de tout votre cœur. Alors, ne rentrez jamais plus pour manger ce que vous venez de vomir comme le font les chiens. Ne rentrez jamais plus pour vous vautrer dans la boue du péché comme le font les porcs lavés. Si vous et moi ne nous rencontrons pas dans ces siècles, nous nous verrons bientôt au son de la trompette quand le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher tous ceux qui ont renversé et détruit les autels de Baal dans leur vie et qui n'ont bâti que le seul autel qui vaille. L'autel à notre seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, et qui ont persévéré jusqu'au moment où la trompette de l'enlèvement sonnait. Je crois que tel est votre cas, tel est le mien. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Amen.